Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nos lectures en liberté se continuent donc avec le récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Il y avait aussi des lézards serpentant par poignées. Ils fuyaient entre les pierres à la moindre alerte. Leurs aïeux avaient été les seigneurs de la terre. La race des sauriens avait dominé la vie avant de disparaître à la fin du Crétacé subitement. Ce petit gardien de l'ombre était les héritiers des lointains maîtres du monde. Avec leur air inquiet, leurs yeux sévères, leur port altier, leur crête dragonne, ils semblaient s'en souvenir. Ils devaient se dire, tapis dans leur coin, « Ah, quand nous gouvernions la terre il y a 65 millions d'années !» Allions-nous subir le même sort, nous autres ? Nous menions la danse en ce moment, nous régentions la chaîne du vivant, nous trafiquions l'atome, nous modifions le gène, nous augmentions la réalité avec des puces de silicium, nous recomposions le poème initial. Mais l'avenir, il ne suffit pas d'être puissant pour durer, les lézards nous le rappelaient. Peut-être allions-nous quitter le devant de la scène ? Alors, quelques-uns d'entre nous, diminués physiquement, survivraient dans l'ombre comme ces fils de Dieu à écailles pour se souvenir des heures glorieuses. Je saluais les ruines que je croisais, ne manquais pas de les visiter. Souvent, c'était le vestige d'une commanderie postée en contre-haut d'un plateau. Elle avait présidé aux destinées d'une société agreste. Mais l'après-guerre avait sonné l'exode au pied des reliefs. Subsistaient ces chicots de murs plantés dans l'herbe jaune. C'étaient des endroits attirants. Chaque mur écroulé abritait la possibilité d'une halte. Elles étaient précieuses, ces zones de repli défendues par les herses de murs. Une plage de silence valait un royaume. Les géographes avaient inventé une superbe expression pour décrire le phénomène d'abandon des villages d'altitude de la Provence. Ils parlaient du déperchement. Le mouvement avait commencé au cours de la première révolution industrielle, puis il y avait eu la saignée paysanne de 1914 et l'industrialisation du pays au cours du XXe siècle. Après la Seconde Guerre, les hauts plateaux calcaires s'étaient dépeuplés extraordinairement vite. Les Trente Glorieuses avaient aspiré le paysan en bas de sa pente, vers la plaine. Certains avaient choisi la ville. Les hommes avaient rêvé d'une existence plus facile et de chemins moins empierrés. La vie était devenue confortable et les enfants moins sales. Giono avait trouvé le moyen d'imaginer un regain et de revivifier un hameau par la grâce du roman. Mais la plupart du temps, les villageois avaient décroché, comme décroche la section quand l'ennemi contre-attaque. Quand un pays de montagne se modernise, l'homme ruisselle comme une nappe d'eau. Et la vallée, frappée d'Alzheimer, ne se souvient même pas que la montagne a retenti de vie. Pouvais-je me douter que cet alu résonnait autrefois de cris muletiers ? Le passé n'a pas d'écho. En une moitié de siècle, l'accélération et l'hypertrophie des systèmes humains, villes, nations, sociétés, entreprises, avaient institué un nouveau solfège dans la vallée. La question de la taille et la question de la vitesse étaient les nouvelles fondations du monde du XXIe siècle. L'agitation et l'obésité ne sont jamais d'heureuses nouvelles. Il y avait cependant une consolation. Si l'on considérait que le flux était la seule loi de la vie, que l'histoire n'avait pas de sens, que nous étions emportés dans le train fantôme sans espoir d'en freiner ni d'en modifier la course, on pouvait trouver une issue en recourant au chemin. Il suffisait de reprendre la marche en saluant les bêtes, pour peu qu'on en croisât. Donc, je vadrouillais dans le silence, des tables écroulées en fermes abandonnées, sur des chemins bouffés par la végétation, de ruines et de ronces. On aurait pu intituler ainsi une bonne grosse monographie sur la Provence des hauteurs. Personne n'aurait pleuré dans les chaumières, il n'y en avait plus. Au-dessus d'un domaine agricole que la carte désignait sous le nom des Morelles, allongé dans l'herbe, je contemplais les strates calcaires. Elles convulsaient en ondulations. Le paysage n'est jamais drôle, cela je l'avais remarqué autour du monde, mais parfois il me semble ivre. Torturé par les soubresauts des plissements, il devient fou. La tectonique est l'opium du paysage. Sur le plateau, je goûtais déjà le suc de ces jours d'ivresse sèche. Le calcaire affleurait, cuit dans le four solaire. Il abritait des plantes spécialisées dans la survie, des bouquets d'héroïnes inconnues. Ma jouissance se nourrissait du retour de mes forces. Guérir tenait du processus végétal. La santé se distribuait dans l'organisme comme les fibres de la plante. Elle rampait, poussait. Mon soin était de la laisser se déployer en jouissant mezza voce de l'effort modéré de la marche. La quotidienne remise en route offrait un plaisir de basse intensité résumé à presque rien. Détecter des traces de vie dans la montagne, de jolies trouées dans une échancrure, la vue d'un mât ou d'un chevet roman. Un engoulevent s'exfiltrait devant moi, c'était une vision pour l'éternité. Je jetais quelques lignes sur un carnet si le spectacle d'un chêne dans un chamblon m'inspirait un salut affectueux. Il me le rendait d'un battement de branche. La marche était une pêche à la ligne. Les heures passaient, et soudain une touche se faisait sentir, peut-être une prise. Une pensée avait mordu. Le soir, je m'endormais, et les images de la lanterne magique défilaient derrière mes paupières. Était-ce là une vie réduite ? Oui, mais réduite à sa plus simple expression. La plus belle, peut-être. Le défi était de faire durer cette douce tension. Entre moi et le monde, il n'y avait que l'air tiède, quelques rafales, des herbes échevelées, l'ombre d'une bête, et pas d'écran. Aucune information, pas d'amertume, pas de colère. Ma stratégie du retrait distillait sa jouvence dans mes fibres. Aller par les chemins noirs, chercher des clairières derrière les ronces, était le moyen d'échapper au dispositif. Un embrigadement pernicieux était à l'œuvre dans ma vie citadine, une surveillance moite, un enrégimentement accepté par paresse. Les nouvelles technologies envahissaient les champs de mon existence, bien que je m'en défendisse. Il ne fallait pas se leurrer, elles n'étaient pas de simples innovations destinées à simplifier la vie, elles en étaient le substitut. Elles n'offraient pas un aimable éventail d'innovations. Elle modifiait notre présence sur cette terre. Il était ingénu de penser qu'on pouvait les utiliser avec justesse, écrivait le philosophe italien Giorgio Agamben dans un petit manifeste de dégoût. Elle remodelait la psyché humaine. Elle s'en prenait au comportement. Déjà, elle régentait la langue, injectait des bêta-bloquants dans la pensée. Ces machines avaient leur vie propre. Elles représentaient pour l'humanité une révolution aussi importante que la naissance de notre néocortex il y a 4 millions d'années. Améliorait-elle l'espèce ? Nous rendait-elle plus libres, plus aimables ? La vie avait-elle plus de grâce depuis qu'elle transitait par les écrans ? Mais cela n'était pas sûr. Il était même possible que nous soyons en train de perdre notre pouvoir sur nos existences. Agamben encore, nous devenions le corps social le plus docile et le plus soumis qui soit jamais apparu dans l'histoire de l'humanité. Partir sur les chemins noirs signifiait ouvrir une brèche dans le rempart. N'ayant en moi ni la violence du saboteur, ni le narcissisme de l'agitateur, je préférais la fuite. Assis sur l'herbe dans la volute d'un cigarillo, je disposais au moins du pouvoir d'oublier les écrans et de m'hypnotiser plutôt du vol des vautours par-dessus les encolis. Je passai une dernière nuit sur le plateau et descendis vers Moustier par un ravin entre deux éminences. Dans la descente, ce panneau sous les poiriers prouvait combien l'administration maternelle est citoyen. La praticabilité de cet itinéraire n'est pas garantie. On devrait annoncer cela à tous les nouveaux-nés au matin de leur vie. À Moustier, sous le commandement de la chapelle d'Entre-Roches, rivé à la falaise, je bus un double café noir et tombai sur le quotidien La Provence. Oh, la tristesse des titres! Et que je massacre les adorateurs du soleil en Irak, et que je détruise un temple grec, et que je foute du pétrole dans la mer profonde et bleue que barattent les baleines en sautant bizarrement. L'homme manquait de tenue. L'évolution avait accouché d'un être mal élevé et le monde était dans un désordre pas croyable. Moustier se réveillait dans la lumière d'un matin à la Raoul Dufy, léger et court vêtu. S'il n'y avait qu'une leçon à tirer de cette impression de chaos général, c'était qu'un village local est un moindre foutoir que le village global. « Vous avez du feu, » dis-je, au type qui fumait à côté de moi avec une allure d'Italien tirée à quatre épingles. « Je peux vous prendre le journal en échange ?»« Vous y perdez, » dis-je, « la violence gagne. » « Non, » dit-il en me tendant le briquet, « elle ne gagne pas. » Vous n'avez pas lu les journaux ?
Si,
mais la violence, autrefois, on n'en parlait pas. Moi, je me suis battu. Un copain dans un bar a pris un coup de couteau, je l'ai emmené à l'hôpital en Jaguar. Il m'a salopé les fauteuils avec son sang, ce con.
Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. j'allais écouter les merles et rose les rossignols. Moi 16 ans et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient rose et les merles me sifflaient. Rose droite sur ses hanches leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson. Le 3 septembre, sur le plateau de Valensole. À Puy-Moisson, je me couchais à l'ombre du lavoir. Rien ne favorise mieux le sommeil que de laisser un filet d'eau l'infiltrer. Quand je me réveillais, une dame aidait un homme saoul à marcher, à rentrer chez lui peut-être. C'était une vision charmante, si russe. Je gagnais du terrain vers la montagne de Lure par le plateau de Valensole. J'allais de longues heures dans un paysage de champs peigniers, plantés d'arbres et de cahutes de galets. Je dis adieu au mystère des hauteurs calcaires. Je le retrouverai plus loin, vers le nord-ouest, sur la montagne de Lure. Entre les deux reliefs, il me fallait traverser un jardin de lavande et retrouver un peu de joie en moi. Pour cela, une seule solution. Harasser la bête. Sur le plateau, le vent soufflait le soir, énervant, parfumé d'aventure. Les haies de ronces et de buissons fournissaient ma ration de mûres, de poires et de figues. Ces ventrées de vagabonds n'étaient pas difficiles, il suffisait de tendre la main, les fruits n'étaient jamais cueillis. De belles araignées noires et jaunes, des archiopes, assuraient la garde. Les temps où le peuple glanait étaient révolus. D'abord, il n'allait plus beaucoup à pied sur les chemins. En outre, la confiture chinoise acheminée en conteneur ne coûtait pas cher à l'épicerie. Pourquoi risquer de se déchirer les mains aux épines quand l'import-export vous apportait ce que vous cherchiez ? Il y avait un rapport entre la prodigalité de ces buissons et la chute du baril de pétrole sous les 30 dollars, me disais-je, en me bleuissant la bouche. Entre Valensole et Oraison, au bord du canal de Manosque, je passais devant un campement de gitans. Quelques femmes en fichu me regardèrent, silencieuses, flanquées de mômes qui mettaient leurs doigts dans la bouche. Dans les alentours du camp, les buissons étaient glanés jusqu'à l'os. Les Romanos, eux, connaissaient la valeur des trésors. Je les saluai, elles ne me répondirent pas. Ces Romanichelles se tenaient à la marge des courants et j'éprouvais pour eux quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Il y avait ainsi des êtres, dans la France du siècle numéro 21, qui vivaient sur la bande d'arrêt d'urgence. Je n'aurais rien troqué de ma vie pour manger des soupes à l'ortie dans les caravanes des gens du voyage. Mais ils témoignaient un certain talent dans l'art de se tenir à l'écart sur leur propre zone. J'osais espérer que ma malade m'offrirait le cadeau de rencontrer les membres de ce peuple. Des moines, des scouts, des gauchistes, de pauvres cloches, des glaneurs de fruits, des chercheurs de champignons, des débiles évadés de l'asile, même des poètes en marche, qui sait ? Une confrérie qui se déplaçait par elle-même au lieu de se sertir dans le courant. De tels êtres en marche n'appartenaient pas aux mêmes catégories, mais ils auraient gagné à se côtoyer davantage. Sans doute avaient-ils des choses à se confier, et les forêts offraient de bons endroits pour les réunions. Les géographes appellent étoiles les carrefours forestiers où les pistes convergent sous les feuillages. Qui rencontrerai-je aux étoiles ? Le monde devint mauve. Un plateau de lavande, Valensole, non. Une place d'armes. Les rangs étaient alignés militaires. Les plantations intensives d'EVA en pleine Malaisie procuraient le même sentiment de mise en ordre. Ici, le pinceau paysan avait produit une toile parfaitement lissée, brossée de longs aplats acryliques où naissait la perspective de la rentabilité. La terre était cimentée, lavée de produits chimiques, domestiquée par les besoins de la parfumerie et de la production de miel. La lutte contre les insectes avait été remportée. On y avait gagné un silence de parking. Il n'y avait pas un frombrissement dans l'air. Et moi, je divaguais dans ces rainures bleutées avec des pensées de Parisiens stupides, admiratifs des insectes. Elles auraient fait ricaner les producteurs qui craignaient, malgré des décennies de napalm, les attaques des cicadelles sur leurs plants. Le 4 septembre, Durance, rive droite. Allais-je réussir à suivre l'azimut des chemins noirs ? C'était un défi, car il me fallait d'abord atteindre le terme de ma diagonale avant de savoir si j'avais choisi la bonne route. En 4 heures, marchant sur la levée des canaux, je gagnais Oraison, funèbre endroit. Était-ce ma faute si le nom des agglomérations poussait au calembour ? Pavillons, hangars, rocades émergeaient d'une forêt de panneaux signalétiques. C'était le règne du périurbain. J'avais échappé jusqu'alors, me tenant dans la broussaille, à cette géographie du non-lieu. Le panneau d'entrée du bourg affichait avec sérieux les termes du destin que les dernières décennies lui avaient fait subir. Une ville à la campagne. Ici, le chemin noir s'arrêtait. Il débouchait dans le dispositif. Je m'avouai vaincu et rentrai dans la zone par la rocade. Les Trente Glorieuses avaient accouché d'un nouveau paysage, redistribué les cartes du sol, réorchestré la conversation de l'homme et de la terre. Depuis 10 jours, je serpentais entre les coulures d'asphalte et percevais l'écriture d'une recomposition. L'une des ruralités était morte. On en trouvait un souvenir dans les ruines des plateaux. Les troupeaux avaient été encagés dans les vallées, les pâtures investies par les randonneurs, les hautes routes ne servaient plus aux transhumances, elles avaient été rendues aux vipères. Le chemin noir courait sur ces hauteurs abandonnées. La deuxième ruralité était active. Elle s'accrochait, vivace, perfusée de subventions. Combien restait-il de ces agriculteurs conventionnels ? Un demi-million ? C'étaient des travailleurs, ils tenaient bon, luttaient. Ils cultivaient intensément pour alimenter le Moloch. La lavande de Valensole, le blé de Beauce et le poulet martyr étaient le fruit de cette agriculture technique. Dans les années 1960, les commissaires européens avaient décrété que l'agriculture était une industrie comme une autre, qu'élever des vaches ou produire des semelles de caoutchouc répondait aux mêmes lois. La politique agricole commune avait incité les exploitants à intensifier la production. Écoutant les mauvais génies, les paysans s'étaient endettés. Ils avaient agrandi leur surface, acheté des machines et des semences trafiquées. Les rendements avaient décollé, le prix du steak baissé, c'était chimique, c'était glorieux, et Giscard tenait sa France prête pour l'avenir. Cette agriculture avait accouché d'un paysage aussi artificiel qu'une place pavée. Les haies, les bosquets, les friches, les marais et les talus avaient laissé la place aux grandes steppes rentables piquetées de hangars à tracteurs. Soudain, la prospérité était retombée. La mondialisation avait ouvert son marché frankensteinien. Les porte-conteneurs acheminaient les produits du monde à bas prix. Bruxelles avait été moins prodigue. Les paysans avaient connu la fin des jours fastes. Ils étaient redevenus des ploucs. Et la ruralité se maintenait comme une vieillarde malade couchée sur le lit de la France. La troisième ruralité, c'était la mise en scène. Les citadins s'étaient aperçus qu'une vie sans issue était pire qu'une vie sans chauffage. Les néo-ruraux s'en venaient dans la campagne après avoir tiré les conclusions de ce qu'il en coûte de quitter l'éternité. Ils scénographiaient le retour, ils étaient à la manœuvre de l'imaginaire. Depuis les années 1970, poussés par la contestation politique, la crise économique ou la récente dématérialisation numérique, ils regagnaient les champs, remontaient les versants. Ils étaient les saumons de l'histoire. Certains d'entre eux se contentaient de retaper une ruine, d'autres accueillaient des hôtes autour d'un repas à l'ancienne, produit par leurs homologues cultivateurs. Les territoires voyaient aussi affluer Anglais et Belges, lassés du crachin sur les murs en briques. Ceux-ci achetaient d'anciennes magnaneries, repeignaient les volets en mauve, se demandant comment on pouvait préférer Turner à Cézanne. J'avais traversé quelques villages destinés à perpétuer le souvenir muséal de la campagne. Moustier, Castellane, village de brochures, semblaient dirigés par les offices du tourisme. Le marchand d'huile d'olive y jouxtait le restaurant chez Marius, et les cohortes de motards garaient leurs harlais sous les platanes pour siroter une fosse absinthe devant l'église très restaurée, mais vide. C'était la ruralité lavande et cigale. En Bretagne, elle se serait appelée galette et bignou. En Indre-et-Loire, cela aurait été plus difficile car il fallait à ces territoires des personnalités singulières pour que les communicants puissent jouer sur les harmoniques du symbole. La ruralité exposait un quatrième visage. Une armée de réserve, depuis 5 décennies, montait au secours de la terre maltraitée. Dans les années 1960, des paysans pionniers avaient commencé à refuser de considérer l'agriculture comme une guerre ouverte. Ils voulaient cultiver sans user les méthodes de l'aviation américaine. Ils étaient aujourd'hui près de 70 000 à se conformer à l'appellation « agriculture biologique ». Il était facile de ricaner. Ils recouraient à une agriculture vieille comme l'antique à laquelle ils donnaient le nom d'innovation ou bien ils qualifiaient de traditionnelles des pratiques ultra-techniques. Mais la cause était belle. Et ses fruits étaient bons. Et les efforts gagnaient lentement du terrain. Les 30 000 fermes bio en activité couvraient aujourd'hui 5% de la surface cultivée du pays. Les paysages de cette ruralité-là étaient faciles à détecter. Les champs ne ressemblaient pas à des dalles de ciment, ni les élevages à des unités de bagnards. Voilà donc pour ce soir la suite de ce récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.